de texte liturgique, donc l'épître de saint Paul aux Thessaloniciens, mes frères. Nous rendons constamment grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous sans cesse dans nos prières, nous rappelant devant Dieu, notre Père, l'œuvre de votre foi, les travaux de votre charité, la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons, frères chéris de Dieu, que vous avez été élus, car notre évangile ne vous a pas été prêché seulement en parole, mais aussi avec puissance, avec l'Esprit Saint et une pleine conviction. Vous savez en effet ce que nous avons été parmi vous à cause de vous, et vous-même vous êtes devenus nos imitateurs, et ceux du Seigneur recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie de l'Esprit Saint, de sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Car la parole du Seigneur a retenti de chez vous, non seulement dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais la foi que vous avez en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en parler, car ce sont eux-mêmes qui racontent à notre sujet quels accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous êtes convertis à Dieu, abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité de mort, Jésus qui nous a délivrés de la colère à venir. Se lève pour l'Évangile. En ce temps-là, c'est du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus dit aux foules cette parabole. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais lorsqu'elle a cru, elle est plus grande que toutes les autres herbes et elle devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter sur ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable au levain qu'une femme a pris et mêla dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Et Jésus dit toutes ces choses au peuple en parabole, il ne leur parlait pas sans parabole, afin que s'accomplit ce qui avait été dit par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Asseyez-vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous arrivons doucement à la fin de l'année liturgique. Et il est temps de demander au bon Dieu toutes les grâces qu'il ait préparées pour cette année qui n'ont pas encore été demandées. Beaucoup de grâces sont préparées par Dieu dans sa miséricorde, mais il attend qu'on les demande. Et si elles ne sont pas demandées, elles s'amoncellent, alors c'est peut-être le moment de les demander, parce qu'il y en a beaucoup à donner. N'oublions pas que, en cette fin d'année liturgique, Dieu peut encore utiliser sa miséricorde, puisqu'il ne peut utiliser sa miséricorde, strictement parlant, que dans le temps. Une fois qu'on a sauté du temps à l'éternité, l'éternité c'est par définition même l'absence de temps, eh bien Dieu ne peut plus utiliser sa miséricorde. C'est pour ça qu'au moment du jugement, il peut utiliser que sa justice, puisqu'il n'est plus dans le temps, nous ne sommes plus dans le temps, mais dans l'éternité. Et donc, il faut, puisque nous avons tout ce qu'il faut actuellement, nous pouvons utiliser la grâce du bon Dieu, puisqu'il ne la refuse jamais à qui elle lui demande avec humilité. Nous avons l'usage de notre liberté, nous avons le temps. Donc c'est vraiment le temps d'utiliser la miséricorde du bon Dieu. C'est l'avènement de la miséricorde. Et avec le passage à l'éternité, ce sera le passage de l'avènement de la miséricorde à l'avènement de la justice. Donc c'est le moment d'utiliser toutes ces grâces dont nous avons besoin. Et les grâces du bon Dieu peuvent faire des miracles dans nos âmes. L'Église nous donne comme exemple ces deux paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ qui se recoupent. La première, nous dit cet évangile, c'est le jardinier qui plante dans le champ une graine de moutarde. Une graine de sinapis, une graine de sénévé selon les traductions. Une graine de moutarde, c'est la plus petite de toutes les graines du potager. Elle est minuscule. Mais une fois qu'on l'a mise en terre, nous dit l'Évangile, elle va se développer. Et si les conditions sont bonnes, si c'est un bon jardinier qui s'occupe bien du terrain, qui a préparé le terrain, qui a enlevé les mauvaises herbes, qui a enlevé les pierres, pour que les racines puissent se développer, que la tige va monter, va devenir un arbre. Et non seulement cette petite graine va devenir un arbre, mais, dit l'Évangile, l'arbre va devenir tellement important que les oiseaux du ciel vont pouvoir venir y nicher. Alors, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, cette petite graine qui grandit, qui devient un arbre, c'est la foi. La graine de la foi. Quand est-ce que nous recevons la graine de la foi? La graine de la foi, elle est plantée le jour de notre baptême. Le jour de notre baptême, Dieu place dans le terreau, dans le sillon qui a été préparé, il place la graine de la foi, qui va grandir, grandir, grandir. Et ces oiseaux du ciel qui viennent loger sur les branches de l'arbre, ça représente tout simplement les différentes bonnes actions que nous pouvons faire, les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, pour pouvoir être valables devant Dieu, pour pouvoir être méritoires, il faut qu'elles soient faites avec foi, espérance et charité, sinon le bonheur ne vaut rien du tout. Et donc, dans la mesure où ces bonnes œuvres peuvent venir s'accrocher à l'arbre de la foi, à ce moment-là, les gens de l'extérieur vont pouvoir utiliser notre arbre de foi pour pouvoir justement puiser dans cette foi que nous leur proposons pour qu'eux aussi puissent la trouver. Et donc, ces oiseaux du ciel qui viennent s'abriter dans le feuillage, sur les branches, qui viennent construire leur nid dans les branches de cet arbre qui vient de pousser dans le jardin, mais représentent justement tous ceux qui vont trouver la foi parce que nous manifestons notre foi et nous devenons un exemple vivant pour les autres. Il ne s'agit pas simplement de sauver notre âme, il s'agit aussi d'aider les autres qui sont autour de nous à sauver notre âme. Et donc on voit très bien comment, à partir du moment où je suis fidèle dans les toutes petites choses, bien, je vais pouvoir devenir fidèle dans les grandes choses. Et notre Seigneur va répéter le même exemple. Cette fois-ci, il va prendre un exemple peut-être encore plus facile à comprendre. Cette femme qui met dans 3 mesures de farine du levain. Il y a un peu de levure, et cette levure va faire monter toute la pâte. Ça représente quoi? Mais c'est la même chose. En fait, c'est la même explication à donner par les pères de l'Église, c'est-à-dire que ce levain qui fait lever toute la pâte, c'est tout simplement la grâce sanctifiante qui va métamorphoser littéralement la foi pour rajouter la vertu de charité. Parce que la foi n'est pas suffisante. Une foi sans la vertu de charité, c'est une foi qui est morte. On dit que la vertu de charité, c'est ce qui va former la foi. Une foi sans charité, c'est une foi informe. Au contraire, s'il y a la vertu de charité, c'est-à-dire s'il y a l'amour de Dieu qui se manifeste par l'application des 10 commandements, à ce moment-là, cette foi va devenir vivifiée et va pouvoir se développer, faire lever toute la pâte. Et le bon Dieu ne nous demande pas simplement d'avoir la foi, il demande à ce que la pâte lève. Il ne demande pas simplement à ce que la graine soit plantée dans le sillon de notre âme. Il faut que cette graine lève, devienne un arbre, donne des feuilles, donne des fruits, et que ces fruits puissent être après ramassés par le jardinier céleste qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc faisons un examen de conscience en cette fin d'année liturgique, puisque dès le 29 novembre cette année, ce sera le premier dimanche de l'Avent, donc une nouvelle année liturgique qui va commencer, il n'y a plus que dimanche prochain dans cette année liturgique. Et donc utilisons notre intelligence, notre volonté, illuminée par la foi, pour faire un peu un examen de conscience. Comment est-ce que j'ai utilisé les grâces que le bon Dieu m'avait données? Comment est-ce que j'ai utilisé la foi que le bon Dieu m'a donnée le jour de mon baptême, comme bébé, ou plus tard pour ceux qui sont des convertis? Est-ce que j'ai utilisé avec avantage, cette graine qui était plantée dans mon champ, est-ce que j'ai fait lever la pâte ou est-ce qu'au contraire je ne me suis pas occupé, il n'y a rien qui a bougé parce que je n'ai pas fait ce que je devais faire? Alors quelles sont les conditions pour que justement cette pâte puisse lever, pour que cet arbre puisse grandir? Eh bien il faut aller chercher la réponse à cette question dans l'épître d'aujourd'hui, Saint Paul aux Thessaloniciens. Et il va poser comme condition que nous abandonnions les idoles. Certes, il parlait à des païens, mais cette phrase s'adresse aussi à chacun d'entre nous. Nous aussi, nous avons nos idoles, malheureusement. Alors, on ne va pas vivre sans idoles. On a tous tendance d'avoir des... Ou on adore un vrai Dieu, on adore des faux dieux, mais on adore toujours quelqu'un. C'est ça le monde moderne. Et donc, une des premières conditions pour pouvoir faire vivre cette charité, c'est d'abandonner les faux dieux. Abandonner les idoles. Qu'est-ce que c'est qu'une idole? Une idole, c'est un faux dieu. Le péché d'idolâtrie, c'est un des péchés les plus graves qui se puissent commettre contre le premier commandement. C'est le péché par lequel je donne l'adoration qui n'est due qu'à Dieu seul. Eh bien, je donne cette adoration à un faux Dieu, à une créature. Et je mets une créature au niveau du véritable Dieu. C'est strictement parlant le péché de Pilate, Lequel des deux voulez-vous que je vous délivre? Dit-il à la foule des Juifs, tout en sachant très bien que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas coupable. Eh bien, il va donner les mêmes droits, Barabbas, qui est coupable, et à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, posons-nous encore cette même question, est-ce que je garde des idoles? Est-ce que je garde des... Puis certes, je pose la question, est-ce que vous adorez quelqu'un d'autre que Dieu? Vous me direz bien sûr que non, j'adore que Dieu seul. Mais dans la pratique, est-ce que je ne donne pas à des créatures un pouvoir qui est beaucoup trop important, qui ne correspond pas à ce que le bon Dieu veut me voir donner comme pouvoir à cette personne, à cette circonstance, à cet objet? Est-ce que j'ai dans ma vie des choses qui sont trop importantes pour moi, qui font de l'ombre à notre Seigneur Jésus-Christ? Il faut prendre l'idolâtrie au sens large du terme. Puis il y a des choses qui sont bonnes quand elles sont utilisées avec à bon escient, avec prudence, avec sagesse, mais si on commence à trop les utiliser, ben ces choses vont venir petit à petit à prendre la place du bon Dieu. Et comme malheureusement le bon Dieu respecte notre volonté propre, ben si j'accorde trop d'importance à ces choses matérielles, il n'y a plus suffisamment de place pour que le bon Dieu puisse se développer dans mon âme. Et s'il voit que je ne lui laisse pas suffisamment la place pour qu'il puisse se développer dans mon âme, eh bien, il a respecté ma volonté, et du coup, ben, il ne va pas pouvoir me donner toutes les grâces qu'il avait prévu de me donner parce qu'il n'y a pas cette place pour lui. Donc posons-nous cette question, encore une fois, un examen de conscience est parfois nécessaire en fin d'année liturgique. Est-ce que j'ai trop aimé des choses que je ne devais pas aimer à ce degré? Est-ce que j'ai mal aimé des choses que le bon Dieu me demandait ou des personnes ou des circonstances? Le bon Dieu m'a demandé d'aimer telle chose, telle personne, mais pas comme je l'ai fait. Est-ce que j'ai correctement correspondu à la grâce du bon Dieu? Est-ce que je garde dans ma vie des choses qui prennent petit à petit la place du bon Dieu? Il y a des choses purement matérielles, des gens qui pratiquement adorent leur ordinateur, ou adorent la musique, ou je ne sais quoi. Tant qu'on utilise la musique ou l'ordinateur comme des instruments pour aller vers le bon Dieu, ça va très bien. Mais le bon Dieu, il nous demande de savoir mettre les choses à leur niveau. C'est là où intervient un don de sagesse. Le don de sagesse va nous aider justement à garder les choses au niveau de créature. On doit aimer ses enfants, on doit aimer son épouse, on doit aimer son époux pour les gens mariés. Mais il ne faut pas que les enfants, l'épouse ou l'époux ou autre chose finissent par petit à petit par prendre la place du bon Dieu et même simplement faire de l'ombre au bon Dieu. Donc posons-nous cette question toute simple. Est-ce qu'il y a des choses dans ma vie de tous les jours qui font de l'ombre au bon Dieu? Et si j'ai des choses que je n'adore pas strictement parlant, mais qui font de l'ombre au bon Dieu, la graine que le bon Dieu a plantée dans le sillon de mon âme ne va pas pouvoir se développer correctement. De la même façon, le levain qui a été placé dans la pâte ne va pas pouvoir se développer correctement. Cette arbre qui pousse, qui devient un grand arbre, qui vient de la graine de sénévé, la graine de sinapis, la graine de moutarde, eh bien, qu'est-ce que c'est? Elle ne va pas pousser n'importe où. Les pères de l'Église ont remarqué que ce champ qui est préparé, qui doit être correctement préparé, c'est tout le travail du propriétaire du champ, plus exactement du locataire du champ, parce que le propriétaire du champ, c'est le bon Dieu. Le locataire du champ, il doit préparer le sillon. Il doit enlever les mauvaises herbes, enlever les mauvais insectes, arroser correctement, ameublir la terre. Il y a tout un travail de préparation à faire pour que le sillon soit bien tracé au moment où le bon Dieu va venir semer. Et quand le bon Dieu va venir semer, il va semer dans le sillon. Ce sillon représente la vertu d'humilité. La vertu d'humilité, si la vertu d'humilité est là, à ce moment-là, la graine peut germer dans le sillon qui a été préparé et commencer à donner une plantule qui va devenir un arbre. Et donc, la vertu d'humilité, si elle est là, c'est le sillon, va permettre à la graine de commencer à grandir. Cette première vertu qui ne peut apparaître que si elle a la vertu d'humilité, c'est la vertu d'obéissance. Donc le Père explique bien qu'il y a d'abord la vertu d'humilité, puis l'obéissance. L'obéissance à la loi du bon Dieu, c'est ça la charité. L'obéissance à la loi du bon Dieu. La loi du bon Dieu, si elle est là, si elle est respectée par l'obéissance, à ce moment-là, on va pouvoir se développer, commencer par donner des fleurs, c'est la fleur de la charité. Et cette fleur, elle va finir par former un fruit. Et c'est le fruit qui est le but de la manœuvre. Et bien ce fruit, disent les pères de l'Église, ce fruit, c'est la vertu de fidélité. Donc il faut l'humilité, l'obéissance, la charité et enfin la fidélité. Et celui qui est trouvé fidèle dans les petites choses, bien, il sera récompensé grandement au ciel. Donc est-ce que je suis fidèle? Est-ce que j'ai été fidèle à toutes les grâces que le bon Dieu m'a données pendant cette année qui est en train de se terminer? Ou est-ce qu'au contraire, j'ai utilisé égoïstement ces dons que le bon Dieu m'a donnés et je ne les ai pas utilisés tels que le bon Dieu voulait que je les utilise? Il ne suffit pas d'accepter les grâces du bon Dieu. Il faut encore utiliser les grâces secondes du bon Dieu comme le bon Dieu a voulu que je les utilise. Comme quelqu'un, si vous voulez, qui prépare un terrain, qui prépare un jardin autour de la maison, il a un plan. Le plan, ce n'est pas lui qui l'a fait. Le plan, il l'a reçu. Donc Dieu donne au locataire de la maison un plan d'aménagement du jardin. Il faut que le jardin soit beau. Pour que notre Seigneur Jésus-Christ ait envie de rentrer dans cette maison. Si tout est en désordre, il y a des papiers gras partout et qu'il y a des ronces partout, comment voulez-vous que le bon Dieu ait envie de rentrer dans cette maison? Donc il a donné un plan et il faut que le jardin soit fait selon le plan. Il ne s'agit pas de se dire, ah ben moi, je veux bien faire un beau jardin, mais selon mes idées à moi. Alors je vais mettre telle allée à tel endroit, là il m'a dit de mettre des roses à tel endroit, mais ça ne me plaît pas du tout, moi je vais mettre des violettes là, et les roses je vais les mettre ailleurs. Pas comme ça que le bon Dieu travaille. Le bon Dieu a un droit d'exiger que nous utilisions notre intelligence, notre volonté, illuminée par la foi, l'espérance et la charité, comme il le veut. Celui qui veut venir après moi, dit notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la première condition. Celui qui veut venir après moi, qui se renonce. Se renoncer à soi-même, c'est quoi? C'est renoncer à sa volonté propre. Donc je ne peux pas prétendre suivre notre Seigneur Jésus-Christ si je refuse de mettre ma volonté propre sous la volonté de notre Seigneur. Regardez ce qu'a fait notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il a été obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Et le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous suivons, le Dieu que nous venons voir régner dans notre âme, c'est un Dieu qui a été crucifié dans son humanité, qui est notre humanité. Le bon Dieu a voulu nous sauver par la croix. Encore une fois, il aurait pu nous sauver de façon différente. C'est pour cela qu'il y a tellement de gens qui refusent notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous sauver par la croix, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons... La croix, ça représente la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ qui vient prendre la place de notre volonté propre. Notre Seigneur Jésus-Christ qui est crucifié entre les poutres de la croix représente notre volonté propre qui se crucifie pour que Dieu puisse faire sa volonté. Et le travail pourra se faire à partir du moment où Dieu peut faire sa volonté en mettant sa volonté dans notre volonté. Regardez le travail qu'ont fait les saints. On dit c'est Saint Albert le Grand. Regardez le travail qu'a fait Saint Albert le Grand. Saint Albert le Grand est certainement une des plus grandes intelligences que la Terre ait jamais portée. Le maître de Saint Thomas d'Aquin. C'est lui qui avait deviné que Saint Thomas d'Aquin deviendrait le plus grand théologien, le plus grand philosophe de l'Église. Et pourtant, quand il était jeune, il était rentré chez les Dominicains. Et quand il était jeune, il pensait qu'il n'y avait plus la vocation. Alors un jour, quand il savait que son directeur spirituel ne serait pas d'accord, il a décidé de quitter le séminaire, quitter le monastère. Il avait droit, il n'était pas encore sous-diacre. Et donc, de nuit, il prend son petit ballot et puis valise et puis il part. Il fait le mur, le haut du mur, et quelqu'un qui l'attendait. C'est quelqu'un qui l'attendait, c'est la Sainte Vierge. La Sainte Vierge l'attendait au sommet du mur. Alors, évidemment, elle lui a demandé, posait quelques questions. Albert, où vas-tu? Ah ben, je quitte, parce que je ne suis pas assez intelligent pour faire suivre les études. Alors je pense que je n'ai pas la vocation, je vais retourner dans le monde. Et la Sainte Vierge lui a dit, je vais te donner l'intelligence. Et obtenir pour toi le don d'intelligence. Tu vas devenir une des plus grandes intelligences que la Terre ait jamais portée. Mais pour que tu t'en rappelles, et que tu n'oublies jamais que c'est un don que tu as reçu de mon Fils, un jour tu perdras du jour au lendemain toute ton intelligence, et tu sauras ce jour-là qu'il faut te préparer à la mort. Elle a fait redescendre. Côté monastère et retourné à sa cellule. Et il a reçu du bon Dieu un don d'intelligence extraordinaire. Et dans l'histoire de sa vie, il est dit que beaucoup plus tard, alors qu'il était déjà assez âgé, plein milieu d'un sermon qu'il donnait, il a eu le trou noir total. Il a tout oublié. Tout oublié. Toute sa science est partie. À ce moment, il s'est rappelé ce que lui avait dit la Sainte Vierge. Le jour où tu perdras tout, tu seras préparé à la mort. Alors il a arrêté de prêcher, il s'est préparé à la mort, il est mort quelque temps auparavant. Peu de temps après. Évêque, confesseur de la foi, supérieur du cerveau de l'Europe. Il était maître de Saint Thomas d'Aquin et supérieur de la Sorbonne à Paris. Donc demandons à ces grands saints, dont nous fêtons un exemple aujourd'hui avec Saint Albert le Grand, demandons à ces très grands saints de nous donner cet exemple d'humilité. Saint Albert le Grand a su ne pas se révolter, accepter les conditions du bon Dieu, être vraiment un instrument du bon Dieu, et quel instrument il a été. Alors demandons, mon Dieu, nous aussi d'être des instruments. Demandons à notre Sainte Vierge Marie, puisqu'elle est, elle est la mère du bon Dieu. Demandons à notre Sainte Vierge Marie de nous aider à être des instruments, de faire peut-être un examen de conscience, de préparer éventuellement pour ces semaines qui arrivent un peu une confession générale. Dans certains cas, c'est utile. Préparer peut-être une confession générale pour l'année qui s'écoule, qui vient de s'écouler, qui est en train de se terminer, et commencer avec les meilleures dispositions cette année nouvelle. Au service du bon Dieu, au service de notre Sainte Vierge Marie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.